Salut les amis, c'est Poulpi Blast et quel plaisir de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau numéro d'Original Sound Bloggers. C'est le 10e épisode, ça y est, on passe aux deux chiffres. On est très 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 content d'avoir atteint ce stade avec mes amis qui sont toujours là, Vicpor et Onink. Les gars, comment ça va?
Ça va, il m'a tête, toujours.
Ça va, j'ai juste une sale crève, mais sinon c'est génial.
Ce que je vous propose, c'est si jamais vous avez le temps de réécouter les débuts des précédents podcasts et de compter le nombre de fois où Onink a dit en début d'émission qu'il avait la crève. Je pense qu'il y en a plus d'une. Il faut savoir que le podcast d'Original Soundbloggers entre dans une nouvelle ère. On s'excuse déjà pour le retard qu'a pris l'épisode précédent qui a été placé sur iTunes il y a très très peu de temps et donc que vous aurez eu avec un mois de retard. On est vraiment désolé, c'était un peu indépendant de notre volonté. Mais sachez que grâce à iTunes, ce podcast, maintenant, il est international puisque nous sommes écoutés notamment, bon, en France, certes, mais également en Belgique, en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada. Et on a même eu des écoutes, alors peut-être fictives, allez savoir, peut-être que c'est des proxys, mais en tout cas, les stats nous disent qu'on est écouté en Corée, aux Philippines, en Arabie Saoudite, au Cameroun et en Côte d'Ivoire.
Oui, ça me paraît bizarre, quoi.
Ouais, c'est un peu bizarre. Déjà, États-Unis, j'ai du mal à y croire, mais alors Arabie Saoudite, un peu.
Oui, parce que autant expatrié aux États-Unis, j'arrive à comprendre. Par contre, en Arabie Saoudite, j'ai un peu le mal à l'avoir quand même.
Ah, pourquoi pas. On va se laisser le bénéfice du doute et on va y croire. On va se lancer comme ça, à corps perdu dans la volonté de réussir. Et comme vous pouvez l'entendre en fond, ce 10e épisode, il est marqué par un élément primordial de la nature, un élément dont on n'a pas encore parlé. Ça fait un moment qu'on dit qu'on va l'amener, celui-là, et il est là. Vous entendez en fond une musique de Super Mario 64 qui s'appelle d'ailleurs Dox, thème du 9e niveau du jeu. Et on va vous parler donc de l'eau. Ça fait un moment, je répète, qu'on a envie de faire un podcast sur l'eau. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'eau et sur les musiques aquatiques. Vicpor, Onink, est-ce qu'il y a des morceaux, vous, des morceaux aquatiques qui vous ont particulièrement marqué en tant que joueur?
J'aurais tendance à te dire ce qu'on va citer dans le podcast à venir. Après, comme ça, moi, c'est pas vraiment les thèmes d'eau, mais c'est surtout les plages de zones aquatiques. Dernièrement, dans Xenoblade, il y avait les mers des rifs qui m'avaient beaucoup marqué. Très très oui, beau thème, et surtout avec la variante assez magnifique.
Oui, moi, il y a un thème qu'on n'a pas retenu pour le podcast, c'est le thème de la mer de Wind Waker. Forcément, c'est le thème qui me vient le plus rapidement à l'esprit quand je pense à l'eau dans le jeu vidéo. C'est vraiment un thème super marquant, mais bon, on a déjà parlé de Zelda très souvent dans cette émission, on l'a pas retenu aujourd'hui.
Effectivement, alors vous pouvez constater qu'il n'y a pas d'invité ce mois-ci, hein, c'est une volonté qu'on a eue de faire un podcast un poil plus sobre pour gagner aussi un peu de temps, hein, puisqu'on est très très pris en ce moment tous les trois, c'est la vie, c'est comme ça.
Ouais, c'est vrai que les invités sont super chiants à gérer. Là, on est tranquille, on est entre nous, à l'aise.
Putain d'invité.
En plus.
Ouais, voilà. Super Mario 64, parlons-en un tout petit peu peut-être avant de se lancer dans le vif du sujet. Jeu sorti, on le sait, au lancement de la Nintendo 64, donc en France en 1997, donc en 96 sinon, Japon et États-Unis. Ça fait déjà plus de 15 ans. Il a été édité sur IQ Player pour le marché chinois en 2003. C'est quand même super rare, c'est un jeu sorti en Chine. Jeu le plus vendu de la 5e génération de consoles, donc Nintendo 64, PS1, Sega Saturn et tout ça, avec près de 12 millions de copies écoulées. Et les musiques sont de Koji Kondo. Mario 64, donc souvent un souvenir ému pour les joueurs qui découvraient souvent la 3D hein, avec ce jeu. Est-ce que c'est votre cas, vous?
Moi non, parce que j'ai joué 64, parce que j'étais trop jeune à l'époque. Je t'avoue que j'y ai joué que sur émulateur et ça m'a bien piqué les yeux. Après l'avoir refait sur DS, je me suis dit, ah oui, quand même, c'est un sacré jeu. Mais j'ai pas le même souvenir que beaucoup de gens, tout simplement, parce que je l'ai pas découvert, en fait. Je savais déjà à quoi m'attendre au moment où j'y jouais.
Ouais, voilà, moi c'est un peu la même chose. Comme toi, j'ai découvert Mario 64 après tout le monde, à l'occasion du portage sur DS. C'est oui, forcément, c'était cool. On ressent pas la claque, la révolution que c'était à l'époque, avec le retard. Mais on a l'impression de jouer à un jeu avec un level design vraiment abouti. Un jeu génial, même si, bon, personnellement, comme pour tous les Mario que j'ai eu, je l'ai pas terminé. Car le jeu, je trouve, s'installe dans une espèce de routine, ça devient un peu chiant. Et vu que c'est un jeu sans histoire, il n'y a pas grand chose qui te pousse à avancer. C'est la découverte des nouveaux niveaux. Mais moi, personnellement, ça me suffit pas.
Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Bon, à l'époque, j'avais une dizaine d'années, hein, quand mon Mario 64 est sorti. Et effectivement, comme tu le dis, pour moi, c'était la claque parce que c'était la sortie de la 3D. J'étais comme un dingue. Je voulais ma 64 à Noël et tout. Enfin, c'est de fou. Et quand j'y repense, c'est vrai qu'effectivement, déjà, quand je rejoue au jeu aujourd'hui, bah, ça y pique effectivement beaucoup les yeux. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'ai jamais fini. Je crois que j'en suis à 113 ou 114 étoiles, 114 sur 120. Parce que, effectivement, ouais, cette histoire de un peu de monotonie, les derniers niveaux, en particulier, j'ai souvenir du 13e niveau, je crois, celui dans l'horloge, à l'intérieur de l'horloge, que je trouve insupportable en fait, qui est long, qui est difficile. Enfin, à l'époque, en tout cas, pour moi, il était difficile parce que j'étais tout petit. Donc, Mario 64, jeu qui a marqué son époque, mais après, ça dépend de quelle époque on est aussi. On va continuer, on va introduire un peu les thèmes aquatiques avec un jeu. Alors là, décidément, on peut pas faire plus aquatique que ça. Un jeu qui est sorti sur Wii en septembre 2009, qu'on connaît en France sous le nom de Endless Ocean 2, Aventurier des fonds marins. Un jeu de simulation de plongée et d'exploration. Si mes souvenirs sont bons, Victor, c'est un jeu qui t'a beaucoup marqué.
Ouais, c'est un peu mon plaisir honteux, Endless Ocean 2 en fait. Là, j'avoue, j'ai passé plus de 150 heures sur ce jeu-là. C'est mon troisième jeu Wii, je l'avais acheté parce que j'avais besoin d'un jeu que je pouvais faire jouer à ma sœur aussi. Et donc j'ai pris ça. Et en fait, ça m'a énormément plu parce que déjà, c'est très beau pour une Wii. Et en fait, c'est un plaisir de la découverte dans ce jeu que j'ai rarement découvert, que j'ai rarement vécu autre part, en fait. Comme on le disait, c'est une simulation de plongée. Donc en fait, vous jouez un plongeur, vous avez une petite aventure. Et vous allez enchaîner les zones pour compléter votre encyclopédie, donc qui contient, je crois qu'il y a 200 espèces de poissons, coquillages, etc., que vous découvrez en cliquant dessus, en fait. Vous vous baladez en monde semi-ouvert, donc il y a des zones très diversifiées, il y a la Grèce, les rivières tropicales en Amérique du Sud, il y a le pôle Nord, le pôle Sud, il y a des châteaux engloutis, des épaves, la côte égyptienne, enfin voilà, c'est très diversifié, c'est très joli, il y a des récifs coralliens sont magnifiquement retranscrits, et puis surtout il y a un plaisir à la découverte qui est assez génial, c'est-à-dire que, mine de rien, même si c'est assez vide parce que c'est un jeu plongé, il y a une envie de compléter vos encyclopédies, de faire vos missions, de découvrir tout simplement qui s'installe, et surtout qu'à chaque poisson, il y a toujours une petite liste d'informations, donc c'est un jeu par lequel on apprend pas mal de choses, et qui est vraiment dépaysant, quoi. Moi, c'est dans mes petits plaisirs que j'aimerais bien revoir un jour, il y a un Endless Ocean en HD avec des zones encore plus grandes et encore plus de trucs, parce que j'ai pris énormément de plaisir sur ce jeu qui n'a pas été très vendeur, forcément, qui est assez difficile à trouver, mais qui est de très très bonne qualité et qui est vraiment vraiment très très sympa à jouer, donc voilà. Et qui est supporté par une BO de très bonne qualité avec des thèmes chantés sympas, comme vous allez entendre.
Tout à fait, hein, les thèmes. Alors, c'est une OST de 9 morceaux par le collectif féminin irlandais Celtic Woman, et les voix lead sont chantées par la jeune et jolie néo-zélandaise Hayley Westenra. On va écouter donc ce morceau, Endless Ocean 2, le morceau s'appelle One World.
Frightened by your boy,
Original Sandbloggers, 10e épisode, toujours consacré à l'eau. On n'a toujours pas d'invité, ça n'a pas changé depuis 5 minutes. Hein. Donc vous venez d'écouter le morceau d'Endless Ocean 2 qui s'appelait One World. Continuons notre épopée au fil de l'eau, au fil du flux de cet élément frais et raffiné. On va maintenant parler d'un jeu de plateforme et de réflexion sorti en décembre 2011 sur PC et sur toutes les plateformes online XBLA et PSN donc, puis sur le Nintendo eShop de la Wii U au lancement de la console. On va parler de Trine 2, une musique qui s'appelle Sea Rock Castle, hein, donc le château de l'eau logiquement. Trine 2, un jeu dont j'ai énormément entendu parler mais je ne l'ai pas fait et je crois que vous c'est un peu plus votre cas déjà.
Bah, j'ai un avis à donner sur le 1 qui fait que j'ai pas envie de jouer au 2. j'ai dû faire les 3-4 premiers niveaux et ouais, je me suis vraiment emmerdé, comme rarement devant un jeu. D'habitude, j'essaie toujours de voir la suite, de persévérer, mais là, je ne pouvais pas. Pourtant, effectivement, comme tu le disais en off, Victoire, tout à l'heure, c'est super joli, de la direction artistique. Les musiques, elles sont super envoûtantes, comme vous l'entendez en ce moment. Mais après, je trouve le gameplay vraiment pas intéressant. Enfin, c'est assez basique. La narration, pareil, ça aurait pu être bien, mais parce qu'à la manière d'un Portal ou plus récemment d'un Stanley Parable, on a un narrateur, une voix off qui nous raconte l'histoire. Mais dans Trine, ils ont choisi un ton de conte pour enfants pour leur histoire. Enfin, pour le 1, en tout cas, c'est comme ça.
Le 2 est pareil.
C'est vraiment limite pour enfants de 6 ans. Et j'ai vraiment trouvé ça super lourd. Donc, bref, moi, j'ai pas cherché à aller plus loin dans le jeu. Victor, je te laisse vanter les moult mérites de cette œuvre.
Moult mérite peut-être pas non plus parce que enfin, moi j'ai trouvé c'est un jeu joli mais pas marquant. C'est-à-dire qu'il a une très bonne direction artistique, même si à mon sens un peu trop chargé. Mais visuellement ça claque comme pas possible, les effets de lumière sont superbes, il y a des décors historique fantasy qui claquent bien, qui déboîtent bien la mâchoire. Et puis la musique surtout est très très bonne qualité. Ça a été fait par Harry Pulkkinen, qui est aussi connu pour avoir fait la musique de Angry Birds. C'est assez différent. Ce qu'il a fait. Et il a aussi fait Outland, si vous connaissez, c'est un platformer inspiré d'Ikaruga qui était sorti sur le PSN. C'est un jeu qui est très sympa, qui je pense vaut quand même le coup d'œil, ne serait-ce que pour ses graphismes et sa musique. Donc même s'il n'est pas inoubliable du point de vue gameplay, c'est sympa à faire en coop.
Donc je pense qu'on a fait le tour pour Trine 2, vous entendez donc, je rappelle, une musique qui s'appelle Sea Rock Castle. Donc effectivement Harry Pulkkinen, hein, que vous connaissez pour la musique d'Angry Birds en fait. Le finlandais. On va reparler un peu des grandes étendues d'eau comme pour Endless Ocean, puisqu'on va parler de l'océan, hein, tout simplement, on va repartir dedans, avec Dragon Quest V, Dragon Quest V, la fiancée céleste de son nom complet, sorti sur Super Nintendo uniquement au Japon en 92, puis il y a un remake 3D en 2004 sur PS2 uniquement au Japon encore une fois, et pour le voir arriver en France, ce jeu-là, il faut attendre 2009 sur Nintendo DS. Des musiques évidemment de Koichi Sugiyama, le compositeur officiel de Dragon Quest, et Onink a insisté, nous l'a martelé qu'on passe ce thème The Ocean, mais dans sa version PS2. Pourquoi dans sa version PS2 déjà, Onink?
Ah bah oui, ah bah déjà le morceau de base il est fabuleux, mais la version PS2 sublime le tout, c'est une version orchestrale vraiment, vraiment superbe. Pour ce qui est du jeu, mon expérience avec Dragon Quest V, ça va aller assez vite, puisque j'ai arrêté le jeu au bout de 4-5 heures, je dirais. J'ai pas retrouvé le sentiment d'aventure que j'avais adoré dans le 8ème épisode. J'ai pas réussi à rentrer dans l'univers, et ça, c'est fatal. Et dans un Dragon Quest plus que dans un autre jeu, puisqu'à côté de ça, il y a un gameplay super vieillot, qui personnellement ne m'intéresse pas vraiment, avec du combat aléatoire à l'appel, un système de combat assez basique, enfin c'est le menu de base. Donc c'est un jeu assez vieux, hein, mais qui a, selon moi, mal vieilli. Tu files ça à un néophyte comme moi, il risque d'arrêter le jeu assez vite. Hein. Par contre, oui, la musique, c'est un délice. Hein.
D'ailleurs, en parlant de vieillerie, alors bon, le parallèle est un peu vulgaire de ma part, mais il faut quand même savoir que Koichi Sugiyama, c'est un peu le doyen des compositeurs de musique de jeux vidéo, puisqu'il a tout de même 82 ans, le bonhomme.
Ouais, quand même.
Donc il est né en 1931, et il a fait de la musique classique avant de se lancer dans la musique de jeux vidéo, évidemment, à l'époque ça n'existait pas, hein, les jeux vidéo. Et c'est quelqu'un qui... c'est l'influence principale de Nobuo Uematsu, hein.
Ah non, mais c'est une...
C'est le bonhomme, quoi, qui a posé ses roustons sur la table, hein, attention.
C'est quand même... Il est toujours en forme,
ouais, effectivement.
Il a fait les musiques du Dragon Quest 9, il me semble. Oui, bah, 82 ans, quand même. Dragon Quest 9, c'était il y a 3-4 ans. Franchement, chapeau.
Vous allez vous faire une idée, est-ce que le jeu a vieilli ou pas? Vous pouvez pas le savoir comme ça, mais en tout cas, la musique... C'est un petit chef-d'œuvre, donc The Ocean, magnifique pièce classique, Dragon Quest V, et on se retrouve après. De retour sur OSB après cette magnifique envolée vers les océans, donc avec Dragon Quest V, hein, j'espère que vous avez apprécié cette magnifique pièce de Koichi Sugiyama. On va rester dans les océans, mais un truc un peu plus festif, hein, un peu plus léger, le thème d'océan, de surfing, donc de surf, de Pokémon rouge et bleu, la toute première génération de Pokémon. Ça va rappeler de bons souvenirs aux fans du jeu, et aux jeunes de ma génération à peu près. Donc un jeu de Game Boy, rappelons-le, Pokémon, hein, sorti au Japon en 96 dans ses versions vertes et rouges, la bleue est venue plus tard chez eux, puis en octobre 99 en France. Un jeu développé par Game Freak, hein, donc 95% des jeux sortis sont des Pokémon, à part leur premier jeu qui était pour NES et pour Game Boy, donc Mario et Yoshi, des jeux beaucoup à base de Yoshi, bizarrement.
On peut faire Ammonite aussi sur 3DS, ouais, il ressemble.
Des musiques de Junichi Masuda, qui est aussi chef de projet chez Game Freak, puisqu'il a commencé comme designer et programmeur, donc le gars est pas du tout complet déjà. Pokémon, alors moi ça m'évoque des souvenirs émus de quand j'avais 11-12 ans et que je partais à la chasse aux Pokémon, armé de mon petit salamèche, et puis que je parcourais le monde. Mais peut-être que vous, c'est un peu moins votre génération ou moins votre trip.
Je rigole. Il y en a qui jouent à Pokémon pour la stratégie et tout, et moi j'y joue uniquement par nostalgie parce que j'ai grandi avec la série animée. Je suis venu au jeu par la série et je me suis surpris à acheter le dernier épisode en Day One et avoir à passer plus de 70 heures dessus en une semaine. Donc, peut-être pas en une semaine, mais là je dois avoir 110 heures pour le jeu à peu près.
Ah, le No Life! Ah, le No Life! Il dévoile sa face cachée!
C'est une série qui m'impressionne assez parce que je déteste le farming et juste parce que c'est de la nostalgie, elle arrive à me faire farmer les bestioles et du combat de merde pendant plus de 100 heures. Quoi. Ça prouve bien que la nostalgie c'est quelque chose de très mauvais pour les gens.
Oui, donc ce thème hein, de. Quand on apprenait la CS Surf, enfin nos Pokémon aquatiques, et qu'on ça nous permettait de monter sur un low class qui pouvait être en fait n'importe quoi, mais c'était un dessin de low class, c'était un sprite de low class. On pouvait faire du surf sur un Magikarp, on avait rien à foutre, hein, le jeu comprenait quand même. Et voilà, avec cette musique entêtante, on a hésité, enfin moi en tout cas j'ai voulu la passer en diffusion, et c'est mes collègues qui ont refusé parce que ça risquait de vous mettre la musique trop dans la tête.
Hein. Donc, elle est horrible.
Elle est fabuleuse cette musique. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à nos copains de la Case Rétro. Voilà, la Case Rétro qui a fait un très bon épisode de podcast récemment sur Pokémon, justement, avec un invité qui rageait sur le fait que Rhinophéros puisse apprendre surf. Et il a un peu raison, le bonhomme. Je crois que c'était sur Pokémon Stadium, ça, pas sur les premières versions, mais bon. Toi, Onink, non, Pokémon, pas trop.
Hein. Si, je vous laissais parler, mais c'est vrai que... C'est un retour total en enfance, juste à l'écoute de ce thème qui nous restait déjà bien dans la tête à l'époque. Comme une bonne partie des musiques du jeu d'ailleurs, très répétitives, très, très entraînantes, c'est vraiment des mélodies.
Ah bah sur Game Boy...
Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de qualité de son, ça forçait aussi le compositeur à se creuser un peu plus sa tronche.
Voilà, à faire des mélodies qu'on retient vraiment.
Bah là, c'est sûr pour la flotte d'avenir, tu vois. C'est limite énervant d'ailleurs. Enfin, ouais. Le Game Boy en fait, généralement tu les retiens... Les musiques de Super Mario Land, elles sont horribles aussi, parfois.
C'est pas faux. On va directement passer à la suite avec un magnifique water theme, encore une fois, le thème de l'eau, The Heroes of Might and Magic 3, jeu de stratégie au tour par tour sorti sur PC en 1999. À ne pas confondre avec la série principale d'ailleurs des Might and Magic, hein. Heroes of Might and Magic est une dérivée de Might and Magic, c'est un peu compliqué. Et la musique a été composée par les trois compositeurs officiels de Heroes of Might and Magic, qui sont Paul Romero, Rob King et Steve Baca. Donc ce jeu de stratégie Heroes of Might and Magic, ici c'est Onink qui nous en parlera encore le mieux, puisque nous, avec Victor, on ne l'a pas fait.
Non, et je le ferai jamais.
D'accord, Heroes of Might and Magic, c'est une série issue forcément de la célèbre franchise de jeux de rôle à la base, des jeux de rôle papier Might and Magic, une série qui perdure puisque le dernier épisode, c'est le sixième, est sorti en 2011 et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc c'est pas une série qui est très mise en avant, enfin personne n'en parle à part 2-3 péquenots. C'est quand même assez dommage parce qu'il y a de la qualité derrière. Donc comme tu le disais, c'est des jeux de stratégie en par tour, dont une des principales particularités, c'est que vous contrôlez des héros spécifiques, comme le titre l'indique, accompagnés par des troupes de soldats. Donc il y a un petit aspect RPG dans la gestion des personnages, même si le gros du jeu, c'est plutôt la gestion des troupes et des armées, avec des combats assez tactiques. À chaque tour, on peut améliorer sa base, augmenter les caractéristiques des soldats ou de son héros, se déplacer sur une carte du monde assez grande. Donc c'est du classique, mais c'est très efficace. Et le troisième épisode, celui dont on parle aujourd'hui, est sûrement un des plus marquants de la série. Et d'ailleurs, la musique n'y est pas pour rien, puisque cet épisode de la série est notamment l'un des tout premiers jeux dont les musiques sont dans un format de compression audio MP3. Donc c'est quand même pas rien, ça représente une belle avancée dans les musiques de jeux vidéo.
Moi les OST de Heroes of Might and Magic, enfin je connais surtout celle du 2 en fait. Celle du 2 m'avait beaucoup marqué par son aspect très opéra et justement il y avait des... C'était carrément de l'opéra quoi, il y avait la chanteuse soprano, le ténor, le machin, qui se donnait un peu la réplique. Et c'était, enfin moi je trouve ça vraiment impressionnant d'avoir foutu de l'opéra dans un jeu quoi. Alors le morceau qu'on va entendre c'est pas vraiment de l'opéra, c'est plus du classique. Ça n'en reste pas moins impressionnant.
Ouais, c'est vrai que les musiques, c'est une constante dans la série. Elles sont vraiment très réussies. C'est pas les OST les plus connues du jeu vidéo, mais c'est quand même dommage, parce que les musiques sont vraiment, vraiment sublimes. Même dans le 4, qui est l'épisode le moins apprécié des fans, il y a des morceaux vraiment d'exception.
On va vous laisser en juger Heroes of Might and Magic 3, donc le water theme sur cette thématique de l'eau qui va nous suivre pendant une heure dans ce 10e épisode d'OSB. We'll be right back. de l'eau et encore de l'eau, que ça vous donne soif ou envie de pisser, tant pis pour vous. On en parlera toute l'heure durant sur Original Sound Bloggers, ça fait déjà un petit moment que ça dure. Et on va continuer avec un jeu dont la base est sous-marine, un jeu d'action-aventure, fantasy sous-marine, ils appellent ça. Vainqueur du Grand Prix au Festival des Jeux Indépendants en 2007, vous savez déjà qui va en parler donc. Hein. Ce jeu il s'appelle Aquaria, et vous entendez en fond un thème qui s'appelle Open Waters. Alors Victor, Aquaria...
Aquaria, donc un jeu indé qui est sorti au début de la génération, qui est fait par Alec Poloca, un mec qui a récemment lancé avec succès le Kickstarter de son prochain jeu d'ailleurs, qui s'appelle Night in the Wood, si vous avez envie d'aller voir. Et donc Aquaria, c'est un, on va dire, un Metroidvania sous-marin, avec plusieurs pouvoirs de l'héroïne qui ont une relation assez intime avec le son, puisque c'est, on les déclenche en faisant des, en apprenant des chansons en fait. C'est un jeu qui est très beau, c'est de la 2D, ouais. Assez jolie. Et puis surtout c'est très sympa à jouer parce qu'il y a des musiques assez énergiques, même si un peu répétitives, assez envoûtantes, et puis des boss très inspirés. Voilà, c'est du Metroidvania, donc moi c'est un genre que j'aime beaucoup, et Aquaria m'a bien plu.
D'ailleurs on peut préciser que Alec Holoka, donc, qui a conçu ce jeu, a aussi composé les musiques. Hein. Donc,
aussi.
C'est lui que vous entendez là, c'est de lui que la musique que vous entendez en fond, Open Waters, que moi je trouve un poil trop naïve pour moi personnellement. Je trouve que la flûte elle je sais pas, ça te bave un petit peu, c'est trop gnangnang, enfin je sais pas, il y a un truc qui me gêne.
Oui oui, non mais je suis d'accord, mais après
après ça reste un beau morceau, et
il y a des thèmes de boss qui sont assez rock et qui sont vachement sympas.
Et il y a quelque chose que t'as pas dit au niveau de la conception d'Aquaria et que j'ai découvert tout à l'heure en faisant une petite recherche, c'est que non seulement Alec Holoka a conçu le jeu, mais il y a également dans, sur ce jeu Derek Yu, qui est ni plus ni moins que le créateur de Spelunky. Voilà, ouais. Jeu qui s'est fait très bien remarquer récemment.
Oui, c'est voilà, il y a un bon duo d'indé derrière.
Voilà.
Cet Aquaria. Et Night in the Woods a l'air très prometteur d'ailleurs.
Je voulais rebondir, tu parlais de très beaux jeux, je suis pas forcément d'accord. Moi je trouve juste qu'au niveau de l'esthétique, ça fait un peu tiep. Enfin, ça peut se donner genre un genre, un style indé, peint à la main, tout, mais au final, on dirait plus des fanarts amateurs bas de gamme sur Paint. C'est assez repoussant. Après, j'ai vu quelques screens et des vidéos, j'ai pas joué au jeu, mais juste au niveau du premier ressenti, moi ça me donne pas forcément envie. Hein. Alors, peut-être que le jeu est très bien.
Hein. Ah, moi je trouve que ça rend bien, enfin, c'est un peu gêné particulièrement. Ouais.
Et vous, chers auditeurs, vous pouvez envoyer vos messages d'insultes sur le gameblog de Poulpi Blast, sur iTunes, sur Podomatic et bientôt sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à rappeler que les insultes sont à destination d'Onink.
C'est ça.
Vous gênez pas.
Vous gênez pas. J'en profite pour effectivement vous annoncer qu'on va bientôt arriver sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Twitter. Ça fait un petit vide quand même, parce que ça fait un moment qu'on diffuse et qu'on a toujours pas créé de compte sur ces réseaux sociaux-là. Il va falloir combler le vide, et vous êtes invité à venir liker, à venir tweeter avec nous.
On peut faire ça avec la voix de Nikos Eliagas, ce serait mieux, c'est pas.
Je ne sais pas imiter Nikos Eliagas. Il a la même voix que Julien Chiez, mais j'arrive pas à l'imiter. Non, c'est vrai. Et toujours est-il qu'on va, en parlant de Nikos Eliagas et de grec et de poil, là pareil, le parallèle est un peu fait à l'arrache, hein, mais en parlant de poil, on va parler de Donkey Kong maintenant. Donkey Kong Country. On a déjà parlé de Donkey Kong Country, plus précisément du deuxième épisode, lors d'un précédent podcast, mais on pouvait pas passer à côté de ce morceau Aquatic Ambiance, un morceau qui est absolument cultissime du jeu vidéo. Alors, on rappelle pour la petite histoire, Donkey Kong Country, un jeu de plateforme sorti sur Super NES en 94, qui est juste le troisième jeu le plus vendu de la console, avec 9 300 000 exemplaires, derrière Super Mario World et Super Mario All-Stars, sachant que le deuxième c'est une compilation, plus ou moins le deuxième jeu le plus vendu de la console finalement. Les musiques sont de Dave Wise, est-il encore utile de le rappeler. Et pour les petites anecdotes, alors Cranky, qui apparaît dans le jeu en tant que grand-père singe, en fait c'est le singe kidnappeur du jeu d'origine en 1981, qui est au sommet, qui balance des tonneaux. Et il se plaint éternellement dans le jeu, y compris dans le générique de fin. La deuxième anecdote absolument fabuleuse, c'est qu'il se raconte, il se murmure que pour élaborer le jeu, Rareware a utilisé des ordinateurs si puissants que le gouvernement britannique a fait une enquête sur les agissements de Rareware, craignant que la puissance de calcul ne serve à des fins paramilitaires ou terroristes. Donc vous saurez Voilà, les gens qui ont développé Donkey Kong Country étaient peut-être des terroristes, on ne saura jamais. J'espère qu'on est d'accord, en tout cas les gars, Aquatic Ambiance de Donkey Kong Country, ce morceau sous-marin, quel morceau, quelle ambiance.
Bah c'est une tarte à la crème, comme on pourrait dire, des musiques de jeu, et notamment des musiques marines. Bah, t'as le thème de Wind Waker, t'as le Dear Dear Docks de Mario 64, et t'as celui-là, enfin, c'est des morceaux absolument cultes qui retranscrivent parfaitement... une ambiance sous-marine, un peu planante, enfin, c'est vraiment une pièce maîtresse.
Le petit côté monde du silence, ambiance vraiment très très posée, très très calme, ça nous suit, il y a un écho comme ça qui parcourt un peu le long du morceau, c'est assez frissonnant. Le morceau s'appelle Aquatic Ambiance, on le rappelle, le jeu c'est Donkey Kong Country, 3 minutes 25 de plaisir et d'ambiance et de zénitude, rien que pour vous. Aquatic Ambiance de Donkey Kong Country, le morceau aquatique par excellence. On vient de vous le passer, on a encore quelques morceaux à vous diffuser dans ce 10e épisode d'Original Soundbloggers. Donc sur les musiques aquatiques, le rapport à l'eau et pas que à l'eau, on verra tout à l'heure un petit peu, on digressera un petit peu. Et donc là on va continuer effectivement à parler de l'eau, avec cette fois-ci non pas l'océan, non pas la mer comme on vous en parle depuis tout à l'heure, mais les chutes d'eau. À savoir Waterfalls of Agartha, musique de Castlevania Lords of Shadows, un jeu sorti en 2010 sur Xbox 360 et PS3. un opus de Castlevania qui s'éloigne pas mal des précédents pour se rapprocher des blockbusters du moment, plus comme, enfin du moment de l'époque en tout cas, plus comme God of War ou Assassin's Creed. Les musiques sont signées Oscar Araujo et sont assez éloignées quand même des musiques connues de Castlevania, un petit peu goth, baroque, tout ça. Pour la petite histoire, donc c'est Gabriel Belmont, le membre de la confrérie de la lumière, qui cherche à contacter l'esprit de son épouse décédée Marie dans une histoire se déroulant entre les dieux, les créatures magiques, genre les vampires, les loups-garous, tout ça, et des personnages aussi mystérieux que le nécromancien Zobek. Je ne sais pas si je vous ai donné envie de jouer, en tout cas, je vais peut-être moins vous donner envie quand je vous dirai que moi, je suis pas allé très loin dans le jeu, hein, j'ai juste testé. Et ça m'a presque insupporté de voir à quel point ils avaient essayé de faire un God of War-like. C'était, mais c'est vraiment tout God of War, quoi. C'est, moi, le gameplay, c'est du God of War. Les musiques, il y en a la moitié. C'est, il y a des gimmicks de la musique de God of War qui se retrouvent dans la musique de Lords of Shadow. C'est très très perturbant. Alors là, heureusement, on vous passe donc un morceau Waterfalls of Agartha, qui est un morceau de musique classique très très posé. Voilà, vachement plus agréable, on va dire, à écouter. Qui a ni rapport avec les premiers Castlevania, ni avec God of War, mais qui est un morceau, voilà, à part entière, qui existe, qui est là. Et je crois que vous, Castlevania Lords of Shadows, vous l'avez pas fait.
Non, parce que je suis pas très fan des beats démos, alors en plus, quand ça ressemble à du God of War, encore moins.
Moi non plus, je l'ai pas fait, pourtant il me tente bien, mais bon, j'ai tellement d'autres jeux à faire. Mais oui, c'est vrai que c'est un jeu qui a l'air de pas mal tabasser au niveau des décors et des musiques. Après, ouais, en termes de gameplay, comme tu le dis, si c'est juste du God of War repompé, je vois pas trop l'intérêt, quoi.
Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Après, repompé, c'est pas non plus le cas, mais je l'ai vécu un petit peu comme ça. Je sortais en plus de God of War que j'avais fait pas longtemps avant. Il y a des décors qui ressemblent à des décors de God of War à s'y méprendre. Donc on va peut-être pas épiloguer sur Castlevania Lords of Shadow, que beaucoup ont adoré, hein. Alors, je vais pas me faire l'avocat du diable, c'est un jeu que beaucoup de monde a adoré. Et on va passer à autre chose, on va passer à Civilization 4. On en a déjà parlé de ce jeu, souvenez-vous, sur les thèmes chantés, on avait parlé d'ailleurs de Baba Yetu, et on avait même parlé de ces magnifiques jeux mondiaux avec les sports les plus inutiles du monde, souvenez-vous. Et Civilization 4, on va donc écouter évidemment un morceau maritime, Out at Sea. Donc j'ai pas plus fait Civilization 4 que l'autre fois, hein, les gars, donc c'est toujours à vous d'en parler.
Bah ça tombe bien, nous non plus on l'a pas fait. Par contre, je crois qu'on a tous les deux fait Civ 5.
Exact.
Donc on va dire que c'est grosso modo la même chose, de toute façon le principe du jeu ne change pas. C'est du tour par tour, c'est de la stratégie gestion, et c'est très sympa. Enfin c'est très sympa, c'est surtout très sympa en multi, parce que... Voilà, comme tout jeu de stratégie, faut arriver à comprendre son adversaire, comment il marche, comment il va essayer de conquérir vos territoires ou pas, ou est-ce qu'il va la jouer défensif. Moi j'ai beaucoup aimé, et puis en plus, voilà, il y a une grosse rejouabilité dû au nombre important de civilisations dans le jeu. Par contre, attention, c'est un jeu qui est assez chronophage, parce que je sais que sur ma première partie, j'en étais à 60 heures, un truc du genre. Enfin, si vous voulez vous y lancer, faites gaffe, parce que il y a le fameux syndrome du aller encore un tour, qui est très dangereux pour votre temps.
D'ailleurs, il y a pas très longtemps, il y a un article qui était paru comme ça avec un mec qui avait fait une partie de Civ 2 pendant 10 ans et qui nous montrait la carte du monde.
D'ailleurs, juste un petit détail, je sais pas si c'est possible sur le 4, mais sur le 5 est modable. Et il y a des modes, mais c'est juste à mourir de rire. Je sais que moi j'ai ajouté comme religion le pastafarisme et le gabénisme. Et la religion de Gabe Newell, où en fait, pour faire vous faites des soldes et ça augmente la production de population. Le pastafarisme, c'est la découverte des pâtes qui augmente le bonheur de la population. En civilisation, j'avais ajouté les nains du Seigneur des Anneaux, j'avais ajouté Staline. Enfin voilà, il y a des modes, mais complètement barrés. On peut jouer sur les cartes du Seigneur des Anneaux, le Skyrim, etc. Les religions, il y a des trucs, mais c'est n'importe quoi. Quand on rajoute les modes sur un jeu qui est déjà super complet, c'est génial, quoi.
Et niveau musical, donc parlons-en un petit peu, on va écouter un morceau donc qui s'appelle Out at Sea. Moi je trouve que justement en termes de civilisation, en termes culturels, je trouve que ce morceau porte très bien son nom et est très bien représenté par cette musique. Pour moi il y a vraiment un gros côté méditerranéen dans ce morceau, sud de l'Italie, Grèce, des morceaux un peu à la mandoline, tout ça, qui m'évoque beaucoup la mer Méditerranée, donc la mer de manière générale. Très très bien pensé cette musique de Civilization 4 qu'on va écouter tout de suite. Civilization 4, le morceau s'appelle Out at Sea.
Mmh.
De retour de croisière sur la mer Méditerranée, vous venez d'écouter Civilization 4 avec Out at Sea. Nous sommes toujours Poulpy Blast, Vicpor et Onink sur Original Soundbloggers. Et si vous avez tenu jusque là, chers auditeurs, tant mieux, parce qu'on est bientôt à la fin et que on va encore se balader à travers les flots, à travers les mers, les plages et la flotte pour vous faire découvrir les plus belles musiques aquatiques, et en l'occurrence cette musique, cet écran titre d'un jeu que je ne connaissais absolument pas, encore une fois, parce que c'est Victor qui nous en parlait, je connais pas les trois quarts des jeux qu'il nous cite à chaque fois.
J'essaie de faire original du coup.
Oui, voilà, mais au moins effectivement on découvre pas mal de choses, notamment cette splendide musique d'écran titre de Luminesca, un jeu indépendant, donc évidemment Victor va nous en parler, mais je trouve cette musique relaxante à un point assez fabuleux. Victor, c'est quoi Luminesca?
Alors c'est un jeu en alpha, donc vous n'êtes pas prêt de le trouver fini, et en fait c'est un jeu de Matt Granville que j'avais découvert dans la chronique d'Atomium sur jeuxvideo.com. En fait c'est un jeu d'exploration énigme vite fait qui se passe dans les fonds marins et qui a un aspect graphique assez simple mais qui est très reposant, très relaxant. Donc moi je l'ai acheté, c'était 5€ je crois en alpha, et j'ai bien apprécié l'expérience qui pour l'instant dure 2 chapitres, et j'espère par contre que ce sera un peu plus complet dans la version finale, parce que pour l'instant c'est sympa mais c'est assez léger quoi. Et le développement avance pas super vite, donc voilà, attendez la version finale pour éventuellement le prendre, mais voilà, si l'envie vous dit, vous pouvez aller voir une vidéo, voilà, et ça dure pas très longtemps, mais je trouve que l'expérience est sympa. J'espère que ça amènera à autre chose en fait, que ce que c'est maintenant.
Donc rendez-vous compte, on vous passe des musiques exclusives là, hein, sur OSB, des jeux qui sont même pas encore sortis, quoi, que c'est encore en alpha. Luminesca, donc l'écran titre, musique relaxante, reposante, qui rappelle pour moi un petit peu moins peut-être les fonds marins que Donkey Kong Country, mais il y a un petit côté un peu similaire justement, avec, encore une fois, cette espèce d'écho, on a l'impression d'avoir chaque note qui fait comme un sonar des ondes sous-marines, c'est très très relaxant. On va continuer, on va sortir de l'eau enfin un petit peu, et on va aller sur la plage. Ça reste à côté de l'eau, mais on va parler de la plage avec The Sandy Beach of Ganbo, la plage de Ganbo, du jeu Grandia, RPG sorti sur Saturn en 97, puis sur PS1 en 2000, édité par Ubisoft et développé par GameArts, des musiques de Noriyuki Iwadare, donc c'est le thème, comme je le disais, de la ville balnéaire de Ganbo. On va écouter une magnifique balade au piano et aux instruments à cordes. Je pense pas que vous ayez fait Grandia, vous les gars.
Non, pas du tout.
Alors non, j'ai pas fait Grandia, je connais pas bien le jeu d'ailleurs, mais ce que je peux dire, c'est que je suis encore aujourd'hui bluffé par la qualité sonore des musiques du jeu. Les musiques sont pour une bonne partie en version orchestrale, le son est nickel, c'est vraiment impressionnant pour un jeu de 1997 sur PS1. Quand tu penses qu'FF7 est sorti à l'époque, on voit bien que Grandia était en avance sur son temps. Même FF10 sur PS2 a un son moins propre que Grandia.
Pas toutes les musiques de Grandia ont cette qualité de son qu'on va entendre dans Sandy Beach of Ganbo, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs morceaux comme ça. Moi je retiens notamment le thème de Mulan, qui est un des grands méchants du jeu. Le thème de Mulan est absolument somptueux, si vous avez l'occasion de l'écouter un de ces quatre. Il y a 2-3 autres thèmes comme ça, le thème d'introduction de l'écran titre, et voilà, c'est vraiment très 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 beau. Après, graphiquement, bon, ça reste un jeu de 97, donc c'est pas à la hauteur de la qualité de la musique, et c'est assez normal. C'est un jeu qui est, à mon sens, difficile à appréhender, ne serait-ce que ouais, même dans le gameplay et tout. Bon, c'est un RPG tour par tour, tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est vrai que il est un peu perturbant, je trouve, à la prise en main au départ. Les couleurs sont un peu étranges, ça pique un peu les yeux. Je trouve qu'on a un peu de mal à se retrouver avec les rotations de caméra, on est un peu vite perdu, mais on se prend vite au jeu et le scénario est assez sympathique. Pour pas dire très sympathique, et au final on se prend d'affection des personnages, on se prend d'affection pour le gameplay aussi, pour les combats, et on va de plus en plus loin, et en fin de compte, alors moi c'est un jeu que j'ai pas fini malheureusement, parce que je suis bloqué à un boss qui est pas très loin de la fin du jeu, malheureusement. Voilà, malgré sa rugosité, on va dire, de premier abord, c'est vraiment un jeu que je conseille à tous les fans de RPG et de RPG tour par tour. Donc il y a Grandia 2 ensuite qui est sorti, si je dis pas de bêtises, sur Dreamcast, que j'ai pas eu l'occasion de faire, mais qui est très 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 bien noté. Et donc là voilà, cette musique de Grandia, The Sandy Beach of Ganbo, qui est le témoin d'une scène assez émouvante du jeu, avec deux héros qui se rapprochent fortement et qui se confient des choses. Je vais pas vous en dire plus, sinon je spoilerai toute l'histoire, en tout cas une partie assez intéressante. Magnifique morceau, Sandy Beach of Gunbow, une balade agréable à souhait à écouter sur la plage au coucher du soleil. Et on se retrouve hors de la plage de Grandia, The Sandy Beach of Gunbow, donc, pour continuer et terminer ce 10e épisode d'Original Sandbloggers consacré aux musiques aquatiques. On va terminer donc avec, vous l'entendez en fond, une musique d'un jeu dont on a déjà parlé qui s'appelle Chrono Cross. On aime bien cette série sur OSB, il y a Chrono Cross, il y a Chrono Trigger, on en parle régulièrement de ces deux jeux. Donc là, Chrono Cross en l'occurrence, le jeu de PS1. Alors le morceau a deux titres. Un titre qui est plus ou moins officiel, qui est On the Beach of Dreams, et l'autre qui est un peu plus officieux, c'est Dream of the Shore Near Another World. Donc il s'agit du thème d'Overworld de l'archipel El Nido. Et il faut savoir que si vous tapez Archipel El Nido sur Google, vous tomberez pas du tout sur Chrono Cross, mais vous tomberez sur l'archipel de Bacuit aux Philippines, auquel on accède à partir de la ville d'El Nido. Alors je sais pas si c'est le game designer de Chrono Cross qui est parti en vacances et qui s'est dit « Mon archipel, je l'appelais El Nido ». En tout cas, une magnifique balade, encore une fois, très très aérienne, avec un violon très prononcé. Qu'est-ce que ça vous évoque, les gars? Je crois que vous avez pas fait Chrono Cross, cette musique, elle vous parle plus ou moins?
Bah oui, forcément, Chrono Cross, oui, on devait forcément le mettre dans ce podcast, avec son univers très marin, cette carte du monde splendide, constituée d'îles verdoyantes, des plages ensoleillées. Mine de rien, c'est pas un univers si commun pour un RPG japonais, c'est assez rafraîchissant, surtout par rapport à Chrono Trigger qui est un peu plus stéréotypé dans cet environnement. Donc oui, j'ai toujours pas fait le jeu depuis la dernière fois qu'on en a parlé, c'était... Ah bah ça fait un petit moment déjà.
Oui, c'est un petit moment, c'était en avril.
Voilà, donc j'y ai pas joué depuis, donc j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que la BO de Chrono Cross, c'est sûrement la pièce maîtresse de Mitsuda, hein, qu'au niveau purement musical, c'est parfaitement écoutable en dehors du jeu. parfois, enfin même très souvent, c'est l'affect qu'on a pour le jeu qui fait qu'on retient tel ou tel OST, et là on tombe facilement sous le charme, qu'on ait fait le jeu ou pas, et moi c'est vraiment une de mes musiques de jeux vidéo préférées.
Très belle OST que celle de Chrono Cross, hein, ça c'est une certitude. Bien les amis, je crois que c'est l'heure de se dire au revoir, hein. Au revoir Onink, au revoir Victor, encore merci d'avoir été présent sur ce 10e épisode d'OSB. Le prochain c'est le 11e, qui dit surtout épisode de décembre, dit bilan. Bilan de, alors pas forcément de notre première année d'émission, mais bilan en tout cas de l'année 2013 de manière générale, dans le jeu vidéo et dans les OST de jeux vidéo. Donc vous aurez le meilleur des OST de 2013 et peut-être un petit peu du pire aussi. On verra ça. En tout cas, merci encore à vous tous de nous avoir écoutés. Donc vous pouvez, je rappelle, disposer de ce magnifique podcast sur le gameblog de Poulpi Blast, sur iTunes, sur Podomatic. Vous tapez Original Soundblogger, si vous tombez dessus, c'est gratuit. Et nous allons donc incessamment sous peu, si ce n'est pas déjà fait au moment de la sortie de l'épisode, créer des pages de réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et si on est là, n'hésitez pas à nous suivre et à nous partager vos OST préférés, vos commentaires, vos ressentis sur l'émission. On sera là à votre écoute. Et si vous voulez par exemple être invité à une émission, n'hésitez pas à nous en parler aussi. Une émission qui se termine avec un jeu, encore une fois, qu'on aime beaucoup. On va parler d'Okami, qui est un jeu qu'on aime tous les trois énormément. Donc on va terminer avec... Bof.
Quoi?
Oui, bon, c'est un petit Zelda-like, c'est un peu atoche, mais ça casse pas non plus trois pattes à 4 heures.
Il va se faire taper. Il peut se faire taper aujourd'hui, Oni, qui fait le troll, là.
On est à distance, mais toi, la prochaine fois que je passe à Paris, je te loupe pas.
Je t'attends. Non, mais Okami, enfin... Il n'y a pas de scénario déjà, faut dire ce qui est. Après, le gameplay, c'est un peu bateau. Mais là, je parle sérieusement. Hein. La partie artistique est une réussite. Enfin, on peut pas nier ça. Après, au niveau du gameplay, c'est efficace, mais bon, ça réinvente pas le tiède, on va dire.
Ah, je suis d'accord. Tellement plus je fais chier dans un Zelda que dans Okami.
Mais dans un Zelda, je trouve le gameplay un peu mieux huilé. Ça marche mieux, c'est plus fluide, c'est plus agréable à prendre en main. Là, Okami, les phases au pinceau, certainement un peu cassé les roubignoles. Et même au niveau de la plateforme, du contrôle du personnage, c'est pas optimal.
Ouais, moi j'ai bien aimé le fait de jouer à Lou.
Ah oui, l'idée est excellente, hein, ça c'est clair.
La DA défonce, les musiques défoncent, l'histoire est vachement cool, c'est long, c'est bizarre. Moi, c'est un de mes jeux cultes Okami, donc.
Ouais, c'est bien pour ça, justement, qu'on l'a mis une fois de plus, parce qu'on en a déjà parlé d'Okami. Donc, on va entendre, pour terminer ce podcast, le thème des plaines de Ryoshima, Ryoshima Coast. On a cette mer magnifique devant nous, avec le dauphin Shashimaru qui vient faire l'émissaire depuis les bas-fonds. Voilà, donc un thème frais, comme il y en a beaucoup dans l'OST d'Okami. Il y a beaucoup de thèmes, on en a déjà parlé, qui sonnent très très japonais, évidemment, parce que c'est un jeu qui est bien basé sur le folklore japonais. Mais je trouve que voilà, il y a une espèce de détachement justement du folklore japonais, un tout petit peu, pour un rendu un peu plus musique classique de manière générale occidentale, et surtout un gros bol d'air frais dans cette musique des plaines de Ryoshima. Et c'est sur ces musiques donc qu'on va se dire au revoir. Ah, désolé encore pour le retard de cet épisode et du précédent. On se donne rendez-vous au mois de décembre pour le 11e épisode et donc pour ce bilan 2013. À bientôt, ciao ciao.
À bientôt.